21h passées de quelques secondes sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à ce nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour vous proposer un entretien avec Christophe Onodibio. Christophe Onodibio vient de faire paraître chez Gallimard un nouveau roman intitulé « Croire au merveilleux ». Christophe Onodibio est journaliste et écrivain. Il est directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire Le Point, dont il est notamment responsable des pages culture. C'est un passionné de voyage, un passionné de culture antique. Son roman « Plongée », paru chez Gallimard en 2013, a obtenu le grand prix du roman de l'Académie française et également le prix Renaudot des lycéens. Ce roman est d'ailleurs en cours d'adaptation au cinéma par Mélanie Laurent. Et puis cette année, il revient sur le devant de la scène littéraire avec « Croire au merveilleux » qui l'a amené le 21 juin dernier à Dijon alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Et c'est à cette occasion que nous avons enregistré avec lui une interview que nous allons vous proposer dans une poignée de minutes. Mais si vous le voulez bien, nous ouvrons cette émission en chanson et juste après, parole sera donnée à Christophe Onodibio. Très bonne soirée à toutes et à tous sur Radion, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Christophe Onodibio, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous revenez sur le devant de la scène littéraire avec un nouveau roman chez Gallimard, intitulé « Croire au merveilleux ». Alors, « Croire au merveilleux », c'est la suite, la passerelle narrative avec Plongée qui avait obtenu d'ailleurs le grand prix
prix du roman de l'Académie française. Et j'adore toujours le dire, parce que c'est un prix de jeunesse, le prix Renaudot des lycéens. Voilà, donc j'étais très fier aussi d'être couronné par les lycéens.
Alors bien sûr, Plongée et votre nouveau roman Croire au merveilleux peuvent se lire indépendamment.
Oui, oui, oui,
néanmoins, moi j'ai lu Plongée et j'ai lu le dernier et j'ai eu beaucoup de bonheur. Alors on retrouve le personnage principal, donc notre
incident autour de nous, mais tout va bien.
Un petit incident.
Voilà.
On retrouve César en situation de veuvage. Il a perdu la femme qu'il aimait dans des conditions dramatiques.
Voilà.
Je n'en dis pas trop parce que je ne vais pas trop déflorer.
Bien sûr.
Reste le petit garçon de 6 ans qui se prénomme Hector, parce que notre César est journaliste, il a commis quelques romans.
Et puis il n'a pas écrit en fait, on ne le dit pas. En fait, il est.
À un moment, j'avais cru comprendre qu'il avait.
César, il est journaliste, il a été reporter beaucoup et il veut plus quitter l'Europe en fait, parce qu'il est, bien en Europe. Il a au fond été confronté dans Plongée avec une femme qui s'appelait Paz, qui elle voulait quitter cette Europe, qui en est morte, qui a été. Était la victime d'un accident, donc ça c'était Plongée. Et en fait, ça m'a intéressé de revenir sur ce sujet, sur cet homme, sur ce père de famille, après donc la mort de cette femme, avec cet enfant qui a grandi et qui a besoin d'un père. Simplement, César n'est pas du tout en état d'être un père, parce qu'il est, vous l'avez dit, il est pas très bien quoi au début du roman. Je voulais en fait sauver... Au départ, je ne voulais pas faire une suite forcément, mais je voulais sauver mes personnages. Je m'étais dit, tiens, qu'est-ce qu'ils deviennent tous les deux? Il n'y a plus la mère de l'enfant, il y a cet adulte, il y a cet enfant qui a grandi. Comment ça se passe entre eux? Et j'avais quand même un pressentiment, je me suis dit, à mon avis, il ne doit pas aller très bien. Donc il faut que je revienne et que je sauve mon personnage et que je l'emmène de l'ombre à la lumière. Et
c'est là qu'on voit tout le pouvoir du romancier sur un personnage de papier, parce que finalement, vous pouviez en quelques pages le faire mourir.
C'est
parce
vrai.
Que le début du roman le place dans une situation où il décide d'en finir avec la vie.
Oui, en fait, c'est un personnage... D'ailleurs, on est en pleine canicule quand on commence le livre. Alors, pour moi, c'était évidemment une métaphore aussi de quelqu'un qui se sent pas bien, qui n'arrive plus à se mouvoir, au fond, dans la vie, qui n'a plus tellement de désir non plus. Et il décide d'en finir. Il décide d'en finir parce que quand il voit son petit garçon, il voit les traits de la femme qu'il a aimée, qui est la maman du petit garçon, et qui ne reviendra jamais. C'est-à-dire que c'est un Ulysse qui ne pourra jamais retrouver sa Pénélope. Et donc, il a décidé de s'effacer, au fond, en se disant « je serai un poids pour cet enfant ». Donc, c'est terrible au départ. Mais moi, je savais qu'il n'allait pas le faire, qu'il allait aller mieux. Mais il a décidé de s'effacer en se disant « je suis un poids pour cet enfant ». Donc, quand le roman commence, l'enfant est chez ses grands-parents, donc les parents de César. César dit « j'ai tout mis en place pour qu'il ne manque de rien », évidemment d'un père. Et il est en train d'en finir, il a pris quelques médicaments, pas la dose totale. Et là, on sonne à sa porte de façon très, très insistante. Comme si quelqu'un savait qu'il était en train de faire une bêtise. Et qui est derrière la porte? Il ouvre parce qu'il se dit, si c'est la gardienne, si c'est on appelle les pompiers, je ne veux pas qu'on me prive de ma mort. Donc il ouvre, et à partir du moment où il va ouvrir cette porte, la vie va se réengouffrer dans sa vie, à lui. Et derrière la porte, il y a une jeune femme qui se présente comme sa voisine, alors que sa voisine a 80 ans, une jeune femme étudiante, grecque, et qui tout de suite a l'air d'en savoir beaucoup sur lui. Donc c'est un petit peu mon envoyé, mon ange, si vous voulez, pour sauver César.
Alors, évidemment, croire au merveilleux, il faut y croire, il faut y croire.
Alors aujourd'hui, on a extrêmement besoin d'y croire. Alors, ce n'est pas une naïveté, le merveilleux pour moi, croire au merveilleux. J'avais envie, quand même, dans ce monde, c'est un livre qui parle du monde d'aujourd'hui, du monde chaotique d'aujourd'hui, qui est en fond comme ça, sur lequel j'insiste pas énormément, mais César étant journaliste, son petit garçon lui posant des questions aussi sur la situation, sur ce qu'il voit à la télé, le chaos de l'époque, est au fond du roman. Mais j'avais envie de montrer aussi que la vie n'est pas forcément telle que les médias nous la présentent aussi. Qu'il y a, pourvu qu'on y soit attentif, une possibilité de recommencer toujours sa vie. Des signes sont là. On peut être attentif à la beauté aussi de la vie et attentif aux autres. Et en fait, tout l'enjeu de ce livre, c'était de faire en sorte que ce père de famille, hein, enfin, le père de ce petit garçon, qui ne veut pas être père, qui n'ose pas, pour plein de raisons dont on parlera peut-être, qui n'ose plus, qui doute en fait de sa possibilité à être un père, de sa possibilité de transmettre ce qui lui est cher, sa culture, ce qu'il aime, ce en quoi il croit, eh bien, faire en sorte qu'il puisse la transmettre et que cet enfant, il y soit attentif. Et en fait, c'est un livre sur la paternité, c'est un livre sur le rapport qu'on a avec les morts qu'on a aimés, les gens qui ne sont plus, qu'on aime et qui vivent encore en nous. C'est un livre sur la transmission.
C'est un livre sur le deuil.
Sur le deuil et le passage du deuil à une forme de résurrection, c'est-à-dire à l'acceptation de la mort des êtres chers, mais surtout à regarder toute la beauté, toute la vie que chacun d'entre nous a sous les yeux. Et pour César, cette beauté, c'est cet enfant. Et j'ai adoré décrire les passages où, enfin, il emmène son enfant en vacances, où il lui apprend à nager, où il le regarde prendre son petit déjeuner, rire, lui poser des questions. Vraiment un roman de la résurrection. Et le merveilleux, c'est ça, c'est croire au merveilleux de la vie, c'est-à-dire aussi ces choses, le merveilleux, c'est-à-dire dont on pense que c'est irréel, mais qui peut advenir dans une vie consumée, une vie sèche, et repeupler cette vie. Et puis aussi, c'est le merveilleux, c'est-à-dire toutes les histoires, en fait, qu'on nous a racontées quand on était petit, qui nous ont nourris, qui nous ont appris à grandir. Et au fond, c'est aussi l'histoire d'un homme sauvé par les histoires qu'on lui racontait quand il était enfant, et un homme sauvé par l'enfance, son enfance à lui, et l'enfance de ce fils, de ce petit garçon qui est devant lui.
Alors justement, les histoires, on peut en inventer, puisqu'il invente des personnages, une sorte d'épopée un peu moderne. Alors j'ai un peu oublié le nom du personnage qu'il a créé pour son fils Hector.
Oui, alors Morlamoc, en fait, je suis toujours fasciné par ça, l'espèce de capacité qu'ont les enfants, quand on les regarde, à s'inventer des mondes. Et je pense que si chacun d'entre nous, quand on va pas bien, ou quand on est peut-être un peu paresseux par rapport à la vie, ou quand on est frappé par un grand malheur, si on convoquait l'enfant qu'on a été, et qu'on s'imaginait quelles questions poserait cet enfant, voilà, j'avais des rêves, est-ce que tu as trahi ces rêves, ou est-ce que finalement tu as essayé de les accomplir, je pense qu'on irait beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'on le voit avec cet enfant, finalement, lui raconter des histoires qui sont des histoires inventées qu'il dessine avec lui. Et puis, très vite, ce qui est présent dans tous mes livres, parce que je suis fasciné par l'antiquité grecque, en fait, tout ce monde de mythologie, ce monde méditerranéen, ce monde de nymphes, ce monde de déesses, ce monde de héros, ce monde de voyage, ce monde de baignade.
Beau et cruel à la fois.
Beau et cruel à la fois, mais qui, moi, m'a aidé à grandir quand j'étais petit. Et c'est vrai qu'il est question d'inventer aussi un nouvel Ulysse ou un nouvel Orphée qui va devoir aller descendre jusqu'aux enfers pour essayer de parler en fait aux gens qu'il a aimés et qui ne sont plus là. Parce qu'en fait, dans Plongée, il y avait une question. C'est vrai que les deux livres peuvent se lire séparément, mais César, en fait, il est présent depuis mon premier roman. Dans Désagrégé, il était là. César ne savait pas si cette femme qu'il a aimée, qui est morte, elle était partie, en fait, un jour. Elle est partie pour une destination inconnue. On l'a retrouvée, elle est morte, en fait, dans ce pays. Plongée était une enquête pour savoir ce qui lui était arrivé, tout en racontant au fils, qui était tout petit, qui avait quelques mois, qui était cette mère absolument formidable, cette espèce de personnage féminin flamboyant qui était Paz à l'époque. Sauf qu'il y avait une question en fait que je résolvais pas, dont j'avais la réponse, mais je l'avais pas donnée au lecteur. Est-ce que Paz allait revenir ou est-ce qu'elle les avait abandonnés? Et moi je savais qu'elle les avait pas abandonnés. Et donc, mais il fallait que mon personnage, que César, le sache pour aller mieux, en fait. Et toute l'histoire de croire au merveilleux, c'est finalement faire la paix aussi avec cette femme qui n'est plus et accepter à l'aimer encore, finalement en finir avec sa propre culpabilité et s'occuper de ce qui reste de cet amour, c'est-à-dire leur enfant qui a besoin de lui.
Christophe Onodibio, si vous le voulez bien, on va marquer une première pause musicale au cours de notre entretien. Je rappelle que votre dernier roman paru chez Gallimard s'intitule « Croire au merveilleux ». Je rappelle aussi qu'en 2013, vous avez obtenu le Grand Prix du roman de l'Académie française et Prix Renaudot des lycéens pour votre roman Plongée, dont nous parlons également ce soir devant ce micro. Et puis, signalons aussi Birman, qui a obtenu le prix Interallié en 2007. C'est Wagon Livre sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Merci de nous être fidèles. On se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons.
Well, I heard there was a secret chord that David played and he pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who had you. But it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
C'est Christophe Onodibio qui nous accompagne ce soir sur Radion. Alors, avant de nous séparer, nous avons parlé bien sûr du personnage César qui est au centre du roman, votre dernier roman, Croire au merveilleux, disponible chez Gallimard. César qui doit se reconstruire après le deuil, après la perte de son épouse Paz, et qui effectivement reste attaché à la vie à travers ce petit garçon de 6 ans qui se prénomme Hector. Et d'ailleurs, Christophe Onodibio, en exergue au roman Plongée, que vous avez fait paraître en 2013, vous citez un proverbe arabe, « Je ne mourrai pas, j'ai un fils ».
C'est curieux en fait. Bah oui, comme si Plongée avait appelé Croire au merveilleux. C'est-à-dire que Plongée, moi je l'ai écrit, c'est vrai que la paternité a changé un peu ma vie, et pas tout à fait ma façon d'écrire, mais en tout cas a mis ce thème de la paternité au centre du jeu. Et « Je ne mourrai pas, j'ai un fils », au fond, conviendrait assez bien à croire au merveilleux aussi. Au fond, cet homme qui veut mourir, dans les premières pages, est sauvé par cet enfant qui est là, qui a besoin de lui, et donc donne finalement donne la preuve du bien fondé de cette citation que j'avais mise au début de plongée, en fait. Mais c'est... sont les choses aussi... j'ai voulu croire au merveilleux. Je veux que quand on lit ce livre, quand on en sorte, quand on est au milieu des pages, qu'on se baigne avec le personnage, qu'on soit avec lui et cet enfant, qu'on soit avec lui et Nana, dont on dira peut-être un mot, qui est cette femme, hein, donc qui a sonné chez lui, cette jeune grecque que j'ai adorée, à qui j'ai adoré d'ailleurs donner vie. Et j'ai envie qu'on se sente, voilà, en Italie avec lui, au milieu des citronniers, dans l'eau, dans les livres qu'il ouvre, dans le vin, puisqu'en plus on est en Bourgogne, dans le vin qu'il boit, avec lui quand il regarde le corps de Nana qui dort chez lui, parce que Nana se refuse à lui. C'est pas une seconde histoire d'amour. Je voulais pas que César trompe, presque, même si elle est morte. C'est curieux, j'avais cette idée-là, la femme qu'il a aimée. Donc je voulais pas le précipiter dans les bras d'une autre.
Il dit bien qu'il ne peut plus faire l'amour. Il dit qu'éventuellement il peut baiser. Mais
il
ne peut plus faire l'amour.
Il n'arrive plus à aimer en fait quelqu'un d'autre. C'est un veuf, vous l'avez dit. Il n'a plus aucun désir pour la vie puisqu'il veut la quitter. Il n'arrive plus à être attentif au spectacle de la vie, encore moins aux femmes. Regarder son enfant, sourire à son enfant. C'est un homme qui est intérieurement calciné, brûlé, totalement consumé. Et le rôle aussi, c'était de montrer aussi comment, après un grand deuil, comment à la fois l'âme a besoin de se reconstruire, mais le corps aussi. Comment jouir à nouveau de l'eau, d'une baignade, d'un paysage, mais aussi du corps d'une femme, mais ou la regarder, simplement regarder une peau qui palpite pendant le sommeil, une poitrine qui respire, le mouvement d'une hanche pendant le sommeil qui est un petit mouvement comme ça, irréfléchi, regarder la nuit, regarder les étoiles, un peu prendre ce qui est essentiel en fait de la vie et qu'il avait oublié. Je veux que le lecteur se sente presque, pas ressuscité, le lecteur ou la lectrice n'est pas morte, mais sente la vie qui revient dans les veines de César, la joie qui revient dans sa vie, l'émerveillement. En fait, c'est ça, c'est se dire, le merveilleux, c'est aussi ça, c'est le monde de l'enfance, et puis c'est aussi ces moments dans la vie où soudain, ça redevient merveilleux. Alors c'est très court, il tient qu'à nous de les prolonger, mais en tout cas, si on ne veut pas les regarder, si on ne veut pas être attentif à ça, il ne se passe rien. C'est l'idée que dans la vie de chacun, il peut se passer quelque chose pourvu qu'on soit ouvert à ça. Et puis l'idée, en fait, que...
Alors, il faut que la situation s'y prête. C'est-à-dire que c'est le fameux kéros, en fait.
Ouais,
j'aimerais bien que vous nous parliez un peu du kéros, parce qu'il apparaît dans Plongée et dans Croire au merveilleux.
Voilà, c'est un mot qui est très important, en fait, chez les... Bon, vraiment, moi, la Grèce antique, dès que je vois le mot grec sur un livre, sur un film, dès que je vois une statue, j'imagine tout de suite, parce que c'était le cas à 12 ans, je vais vous parler du kairos, mais c'est tout de suite la Méditerranée, le soleil, les histoires, les dieux qui sont capricieux, qui font n'importe quoi, mais qui jouissent totalement de la vie, qui se mettent en colère, qui sont jaloux, qui sont comme des hommes déguisés en dieux. Je vois une grande libération de la chair, de l'esprit, une grande invention aussi. La Grèce, on a tout inventé, les mathématiques, la géométrie, la philosophie, la statuaire, enfin, tout a été là,
aussi.
La démocratie, tout a été là, même si ce n'était pas un régime parfait, hein, il y avait des esclaves, mais en tout cas, on n'a jamais tué au nom d'un dieu, par exemple. Dans l'Antiquité. Leur rapport à la religion est tout à fait simple. Il est dans la nature avec ses nymphes, ses naïades. On accueille les dieux des autres qui s'absorbent les uns les autres. On ne les prend pas au sérieux, en fait, les dieux. Il n'y a pas d'interdit, véritablement. Et en fait, le kairos, c'est une notion que, tout petit, j'ai apprise, parce que j'ai des très très bons profs de grec quand j'étais en Normandie, et qui m'ont ouvert, donné les clés de cet imaginaire absolument chaleureux. Et le kairos, en fait, c'est le moment. C'est assez difficile à expliquer, c'est le moment opportun. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, on parle beaucoup de la chance pour les politiques en ce moment. Il faut avoir de la chance, en fait. Et en fait, la chance pour les Grecs, ça faisait partie du programme politique. C'est-à-dire qu'un héros, il a de la chance. Et le kairos, c'est presque le moment, c'est la conscience que quelqu'un a du moment où les planètes sont alignées, en fait. Voilà, donc on peut l'appliquer à l'actualité, quoique en ce moment ça dérape un peu, mais c'est l'alignement, c'est-à-dire que tout est fait, tout s'installe pour accélérer votre destin dans une direction qui n'était pas prévue. Et tout l'intérêt ou tout le talent en fait, des gens qui sont sensibles à ça, c'est de savoir que le moment est venu et que là, il faut se lancer. Mais au fond, ça s'applique à chacun de nous. Il y a plein de moments dans la vie où on sait, où on doit être capable de sentir que c'est le moment où il faut se lancer.
Alors, ça demande un peu de lucidité et un petit peu de courage. Il ne faut pas être paresseux intellectuellement non plus.
Non.
Il faut réfléchir.
Non, mais il faut croire au merveilleux. C'est-à-dire qu'il faut croire que tout ne dépend pas de nous, mais quand c'est là, il faut être capable de se lancer, vraiment.
Alors, il y a quelque chose de très beau, par exemple. Il y a une réflexion formidable, toujours par rapport à l'Antiquité. Lorsque Ulysse rencontre une femme, il lui demande si elle est une déesse ou une mortelle. Ouais. Et vous dites, il faut aussi, quand on rencontre des gens dans notre vie, se poser la question de, sur qui est l'autre. C'est peut-être pas un mortel, c'est peut-être un dieu. Et ça, j'y ai pensé en vous lisant, là, très récemment, comme vous dites, sous mon parasol au jardin. Et j'ai trouvé ça formidable.
Oui, ben c'est, merci. Non, c'est en fait... C'est vrai que les... vous avez un passage, parce que je m'amuse beaucoup à faire revivre Ulysse, parce que Ulysse, c'est ça, c'est quand même, le... c'est quand même ce type qui, une... qui revient de la guerre et qui va rencontrer bon, à la fois des monstres, mais aussi des femmes formidables. Des...
Enfin, vous dites quand même, enfin, le narrateur dit Ulysse, un faux cul, Achille, un têtu, colérique. Oui. Le seul bel héros, c'est Hector.
Oui.
Et bien sûr, c'est ce prénom qui va être donné au, petit garçon de César.
Parce qu'Hector, c'est le fils de Priam, c'est le prince de Troie et c'est le plus valeureux des héros de l'Antiquité. Puis c'est en fait, c'est le fils parfait et le père parfait. J'aime beaucoup cette idée que dans la vie, quand on a des enfants, on est certes un père, mais on reste toute sa vie un fils. Parce qu'en fait, même quand nos parents ne sont plus là, on pense à eux et ils vivent en nous. Et c'est une forme de longue chaîne de transmission qui se fait. Et j'adore cette idée. Et en fait, cette idée grecque... Donc, à un moment, il faut que je raconte le passage, parce que c'est absolument génial. C'est tout à la fin. Ulysse a perdu tous ses compagnons. Dernier naufrage, il sort tout seul de l'eau. Il a passé il est passé entre les vagues. Il est couvert de sel. Il est tout sale. Il sort de l'eau. Et en fait, Nausicaa, la princesse de l'île sur laquelle il arrive, l'île des Phéaciens, est là et joue à la balle avec ses servantes. Et quand il voit ce type hirsute qui sort de l'eau et qui est nu, quand même, il faut le dire, toutes les suivantes fuient. Mais en fait, Nausicaa, Athéna lui a enlevé la peur, parce qu'Athéna protège Ulysse. Et cette idée de protection dans le roman, que peut-être des gens là-haut ou ailleurs ou ici veillent sur nous, j'adore cette idée-là. Un peu comme la bonne étoile, hein, vous voyez. Et en fait, Athéna a enlevé la peur de l'esprit de Nausicaa. Donc Nausicaa accueille en fait cet étranger qui arrive. Et il y a cet échange où Ulysse lui dit « Voilà, es-tu déesse ou mortelle ?» Elle est tellement belle, elle est tellement là. Est-ce que c'est une femme normale ou est-ce que c'est quelqu'un issu du monde des dieux ? Et cette idée-là, évidemment, c'est une métaphore parce que les Grecs ne croyaient pas à leur mythe. Mais ça les aidait un peu à déchiffrer le monde. Ça veut dire faire une attention à l'autre. Voilà, peut-être venez-vous du monde des dieux, vous me posez des questions et j'en sais rien. Mais je dois, il faut que je fasse attention parce qu'on ne sait jamais. Si vous venez de cet autre monde, il faut que je vous traite bien. Voilà, c'est un peu cette idée-là d'attention à l'autre, de bienveillance, même si c'était aussi un monde cruel. Mais en tout cas, il y a cette idée que j'adore. C'est-à-dire qu'on fait une rencontre, mais au fond, en amour, c'est pareil. On rencontre quelqu'un, on a l'impression d'être tout de suite enthousiasmé. Enthousiasmé en
au sens étymologique en plus.
Les dieux sont en vous. Et c'est vrai qu'une rencontre amoureuse, tout de suite, on a l'impression que l'autre est une forme de dieu ou déesse. Il y a cette idée-là dans la vie. C'est ça l'émerveillement. C'est-à-dire le monde est dur, le monde est chaotique, surtout aujourd'hui. Mais en même temps, une certaine beauté demeure. Il ne tient qu'à nous d'y être sensible. Sauf que lui, il a besoin d'un petit coup de main du destin, du kairos.
Génétique en bandoulière.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Christophe Onodibio, je reviens avec vous à la mythologie parce que César dit « ça aidait tout de même à vivre ». Vous regrettez aujourd'hui, par exemple, je vais vous dire, j'ai enseigné le français pendant une dizaine d'années et je ne comprends pas que dans notre pays, l'enseignement du latin ne soit pas obligatoire. Ouais, je dis bien obligatoire. Alors, je pense que là, je n'ai pas besoin de vous convertir à
ça. Non, vous n'avez pas besoin de me convertir. Et d'ailleurs, il faut continuer le combat. Il était question, et on va surveiller ça de près, que le nouveau gouvernement réintroduise ça, le latin et le grec. Pourquoi le latin et le grec ? Parce que je tiens aussi au grec. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une école, certes, c'est une école de rigueur, on apprend une langue, mais ces langues qui sont des langues non pas mortes mais anciennes, nous mettent, et ça c'est Paul Venn, le grand historien de l'Antiquité qui le dit très bien, ces langues-là nous mettent en rapport avec un monde qui n'existe plus, qui est une partie de notre culture, mais qui est un monde aussi très très étranger, qui est à la fois familier et étranger. Et ça, ça apprend à des jeunes enfants qu'il y a des différences. En fait, l'idée de différence familière, voilà. On peut être différent et en même temps, ça nous parle. Et ça aide à se projeter totalement. Et pour inventer le monde d'aujourd'hui, le monde qui va être compliqué, le monde de demain, il n'y a pas mieux que finalement de biberonner cette espèce de civilisation qui a été la civilisation gréco-latine, qui au fond a unifié la Méditerranée, bien au-delà de la Méditerranée, mais qui a produit, on le disait tout à l'heure, vraiment le meilleur dans tous les domaines. Et notamment en banlieue, c'était très très important de le faire. parce que ça donnait aux élèves, non seulement les résultats étaient meilleurs, mais ça donnait aux élèves aussi la sensation qu'il y a eu un monde, à un moment, rive sud, rive nord de la Méditerranée, qui au fond était uni, où il y avait une sorte d'horizon commun. Et ça, c'est très très important. C'est très très important aujourd'hui. Et je ne comprends pas, alors il y a ça, la rigueur aussi, parce qu'en fait on déchiffre une autre langue, ça aide l'étymologie, qui aide sur l'orthographe, la grammaire, et le sens de l'histoire, l'esprit critique, on l'a dit, j'en parlais tout à l'heure pour la religion aussi. Ça nous montre aussi un monde religieux beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide que justement les modèles qui sont présentés aujourd'hui à la jeunesse, qui sont des modèles dangereux. Et puis, ça ouvrait sur un imaginaire absolument fabuleux, qui donne des meilleurs rêves que quand on ne connaît pas ce genre de choses. Et ce qui m'a frappé, c'est d'entendre à l'époque Najat Vallaud-Belkacem, on peut la citer, et on a fait des choses au point, ailleurs, avec justement des spécialistes de l'Antiquité. C'est dire que c'était archaïque, inutile, élitiste et même de droite. Alors que quand vous voyez quelqu'un comme Camus, qui a été aussi biberonné justement à ces mythes-là, ou tous les archéologues, qui sont d'ailleurs, qui n'ont rien, qui sont plutôt des gens souvent à gauche en fait, politiquement, dire ça, que c'était de droite ou élitiste et passéiste, voilà, c'était pas archaïque, c'était passéiste, c'était un non-sens totalement. Une preuve qui va éclairer tout le monde, Mark Zuckerberg, qui est donc l'inventeur de Facebook, qui est l'un des inventeurs de la Silicon Valley, quelqu'un qui a, en bien ou en mal, mais en tout cas qui a ouvert une nouvelle porte du futur, hein, ces réseaux sociaux qu'on ne connaissait pas, mais qui quand même peuvent permettre à plein de gens de communiquer dans le monde entier. C'est un dingue de l'Iliade et de l'Odyssée. Et il connaît des vers d'Homère par cœur. Et je me dis qu'au fond, il n'y a pas un lien direct, mais quelqu'un qui connaît très très bien le passé et qui est capable de se projeter dans le passé, bah, et finalement, il n'y a peut-être pas un hasard s'il est aussi capable de se projeter dans le futur. Et en fait, quand on sait d'où l'on vient, on arrive assez bien à se projeter justement dans l'avenir, à se trouver des directions. Parce qu'on a besoin de se nourrir des choses pour les réinventer, se les approprier, etc. Donc c'est aussi l'un des messages du livre. À un moment, ils ont des échanges avec Nana, puisque Nana, elle est grecque. Hein, donc c'est sa culture, elle. Hein, c'est la mythologie, c'est ce qu'elle a appris à l'école, puisque c'est une petite grecque. Nana étant le diminutif d'Athéna, puisque en Grèce, les filles et les garçons d'ailleurs portent des noms de dieux. C'est aussi ce qui fait le charme de la Grèce.
Alors, Google, vous l'écrivez, est le nouvel oracle des temps c'est modernes. Vrai. Concernant les religions, à un moment, c'est Paz d'Amplongé qui dit « le polythéisme n'a jamais tué personne ». Enfin, le polythéisme n'a pas tué au nom des dieux. Il y a une méfiance à l'égard des religions. Par exemple, à la fin de « Croire au merveilleux », notre ami César est invité sur une île grecque pour rencontrer quelqu'un. J'en dis pas trop. Ouais. Bref, il arrive sur cette île. Ouais. Justement, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseau. Non. C'est une île un peu étrange, mais l'église est devenue un musée, la mosquée est devenue un musée. Vous avez un peu de méfiance à l'égard des religions, notamment des monothéismes.
Oui, je me suis amusé à ça. Déjà, musée, pour moi, c'est positif. Hein. Ce n'est pas du tout lieu poussiéreux que personne ne visite. Dès que j'arrive dans une ville, et là, c'est dommage parce qu'à 10, je repars très tôt demain matin, mais j'aurais voulu voir le musée de Dijon qui a réouvert l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais en fait, c'est vrai qu'il arrive dans cette île dont il se dit qu'elle doit être au bord de la Turquie, en fait, puisqu'il y a à la fois une église et une mosquée. Et en fait, ces lieux, alors effectivement, on aura l'explication en lisant le livre, mais ces lieux de culte monothéiste sont fermés, en fait, voilà, et sont des musées fermés. Et c'est vrai qu'il y a cette idée, quand même, on en a un petit peu parlé, mais que j'ai l'impression que quand même ces dernières années, dès qu'on a parlé de religion, c'était en termes violents. Je veux dire, c'est pas un scoop. En termes d'interdits aussi, en termes de violence, en termes de sang, de mort. Et moi, quand je pense justement à ces dieux, à ces hommes déguisés en dieux, au fond, que sont les dieux grecs, qui se chamaillent, qui sont pleins de désirs, les amours de Zeus sont absolument, je veux dire, c'est colossal. J'ai voulu aussi rendre un hommage à ces temps un peu enchantés. Où le rapport au spirituel, à l'au-delà, était beaucoup plus simple. Par exemple, une idée qui me plaît beaucoup, c'est que les dieux grecs, ils redescendent sur la terre. C'est un peu comme les anges. Parfois, ils redescendent, ils ont des amours avec les mortels. Ça ne les dérange pas, en fait, d'aller voir les mortels, de se déguiser pour voir comment les mortels vivent, pour les observer, mais parfois les aimer aussi, et veiller sur eux. J'aime beaucoup, en fait, l'idée qu'Athéna veille vraiment, protège Ulysse, en fait. Pendant la guerre de Troie, on voit chaque héros grec a son protecteur ou sa protectrice. Et c'est vrai qu'il y a un côté enchanté, moi, que je l'ai... Quand je ferme les yeux, ou j'ai même pas besoin de fermer les yeux, j'imagine ces temples grecs dans la nature. C'est vrai que je suis allé à Paestum, il en parle d'ailleurs, dans Croire au merveilleux, où vous êtes au sud de l'Italie, puisqu'il est beaucoup question du sud de l'Italie, et vous êtes au milieu de ces temples parfaitement conservés, et vous avez l'impression, en pleine nature, avec les arbres, la mer n'est pas loin, et vous avez l'impression que des jeunes femmes vont surgir et danser comme on dansait au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a une légèreté quand même, une légèreté religieuse qu'on n'a plus, qu'on a perdue. Et donc je me suis amusé avec ça. La mosquée et l'église sont fermées, mais elles étaient côte à côte déjà.
Très bonne soirée à toutes et à tous. Christophe Onodibio, si vous le voulez bien, on marque une nouvelle petite interruption musicale dans ce numéro de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Je rappelle que le dernier roman de notre invité s'intitule « Croire au merveilleux » et qu'il est disponible en librairie aux éditions Gallimard.
To
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Dans Plongée, il y a un hommage, un éloge du requin.
Oui.
Je n'en dis pas trop, mais
oui,
j'ai
dans
été...
Plongée, oui.
Alors, par exemple,
oui.
Le merveilleux, il est sur tous les continents aussi.
Oui,
et vous parlez
fait.
Même du monde arabe,
exactement.
Également.
Exactement.
Le merveilleux, il est partout. C'est les djinns, par exemple, bon, qui ont
vrai.
Un lien avec la religion
musulmane. Les djinns qui sont les génies, en fait. Djinn, c'est le mot qui a donné génie. D'ailleurs, encore, l'étymologie, elle est partout. C'est vrai que ça ne se limite pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une partie de notre culture, le monde gréco-latin. Ce n'est pas toute notre culture. Notre culture est bien plus métissée. Le monde barbare aussi a forgé les Visigoths, les Ostrogoths. Il y a aussi un grand pendant européen central aussi dans notre culture. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, il y a le monde arabe. C'est-à-dire que pour moi, c'est un monde ouvert, hein, tout ça. Mais les requins, oui, vous faites bien de le signaler. Au fond, le requin était déjà un animal mythologique quand je le mettais en place. En fait, le requin et les dieux grecs, c'est la même chose. Et les déesses grecques, plutôt, puisque c'est plus des déesses que des dieux. C'est-à-dire, c'est l'archaïque. C'est les temps anciens qui reviennent et qui ont quelque chose à nous dire. Le requin, il avait quelque chose à dire à Paz, il avait quelque chose à dire sur la beauté, sur l'éternité du monde. C'est-à-dire que les hommes aujourd'hui ont tendance à penser que tout est spontané, qu'ils ont inventé en fait le fil à couper le beurre, quoi. Or, je pense que et j'en suis sûr, nous sommes le produit d'une longue histoire. Nous sommes reliés aux requins, nous sommes reliés à la civilisation grecque, à énormément de choses. Et le requin était cet animal qui n'avait pas évolué pendant des millions d'années, qui n'a pas évolué pendant des millions d'années, et qui est un animal parfait, certes qui fait peur. C'est aussi le cauchemar, c'est aussi la peur, c'est aussi ces peurs ancestrales qu'on a. Et au fond, là, d'en croire au merveilleux, au fond, ça reprend cette idée d'un vieux monde qui nous parle, en fait, dans notre époque, qui nous ouvre une porte, en fait, voilà, qui nous nourrit. Et le requin nourrit ses pases, et ne se nourrissait pas de pases, je précise. Et là, c'est la Méditerranée ancienne. D'ailleurs, vous avez énormément de contes et de mythes avec des dauphins, avec le monde marin. Le monde marin, c'est le territoire de Poséidon. Donc le requin fait partie aussi du monde de Poséidon.
Dans le roman, c'est dans Plongée, hein, vous dites que le requin aux îles Tonga est une déesse et que les Fidjiens, pour devenir des hommes, être vraiment des hommes, ils doivent embrasser le museau d'un requin.
Oui, exactement. Il y a tout un tas de cérémonies d'initiation où ces peuples anciens faisaient corps avec la nature. On en connaît les dangers, mais c'est vrai qu'on doit appeler le requin, en fait. Le jeune homme qui n'est pas encore un adulte part sur sa pirogue et va faire l'expérience de la nature, l'expérience du requin, et doit revenir sain et sauf. Maîtriser sa peur, c'est aussi ce qui nous fait grandir. César, sa peur, c'est de ne pas pouvoir être un père de famille. Et il a un enfant qui a besoin de son père. Il a peur aussi, finalement, des femmes. Il a peur du désir qui peut revenir, il ne sait pas. Et au fond, grâce à ce voyage dans son enfance, au fond, ou vers son enfance, son voyage vers les mythes, son voyage vers la Grèce, dont vous avez parlé,
les pèlerinages, le retour, effectivement, oui.
C'est aussi, finalement, une longue initiation de l'ombre à la lumière, de la peur à l'absence de peur, de la non-paternité à l'acceptation de la paternité, et du non-désir au désir qui revient. Et il y a aussi, finalement, il doit maîtriser son requin intérieur. C'est vrai que tout ça, quand on écrit des livres, vous savez, enfin des romans, maintenant, moi, c'est mon sixième, font tous ces romans, dans Birman aussi, c'est César aussi dans Birman. Et au fond, César avait déjà, à l'époque, il n'osait pas franchir le Rubicon. Il lui disait, sa petite amie de l'époque, en lui disant, t'es en Thaïlande, tu rêves de faire du grand reportage, tu rêves d'être un reporter, un grand écrivain reporter, et en fait, t'as la Birmanie à côté, et en fait, tu n'oses pas franchir ça. Et en fait, il le faisait. C'est pour ça qu'il s'appelle César. Il a un nom de conquérant, mais oui. Dans une époque où, en fait, c'est difficile de conquérir. Et c'est plutôt une époque de peur. Et je l'appelle aussi César parce que c'est quelqu'un qui, finalement, à chaque fois, réussit à dominer cette peur pour se réinventer et grandir et étendre, en fait, son domaine de, son domaine d'enthousiasme. Voilà, s'ouvrir un peu plus au monde à chaque fois.
Alors, trois citations, parce qu'il va falloir que nous interrompions cet échange.
Ouais.
J'ai relevé. Avoir un enfant était mieux qu'écrire un roman. Être lu, c'est être caressé.
Ah oui,
et écrire un roman est un marathon.
La première, oui, parce que au fond, je ne suis pas de ceux, même si la littérature compte énormément. La paternité, le fait de serrer un enfant, ce qui m'est encore arrivé cette nuit dans mes bras avec ma fille près de moi, qui n'arrivait pas à dormir parce qu'il faisait très chaud, c'est quand même plus puissant que tout. Même quand on écrit et quand on invente des mondes, au fond. C'est pour ça qu'il faut aussi regarder ce monde-là, finalement. La deuxième, être lu et être caressé. Oui, parce que quand vous lisez, moi, ça m'arrive parfois de voir en petite souris des gens que je ne connais pas avec... en train de lire un de mes livres et voir ce mouvement qui est très beau, d'ailleurs. Et c'est pour ça que le livre est un objet... parfait, ces doigts qui tournent une page, qui feuillettent, il y a quelque chose d'extrêmement sensuel. Et j'avoue que j'adore quand sur les réseaux sociaux, je reçois le livre en fait, que les gens emmènent avec eux et ils prennent une photo du livre dans un endroit qu'ils aiment. Certains sont retournés en fait sur la côte amalfitaine parce qu'il y a un bandeau en fait sur le livre qui montre une terrasse sublime en Italie. Que normalement on ne reconnaît pas, sauf que des lectrices en fait l'ont reconnu et sont allées avec le livre et ont envoyé des photos du livre sur ces endroits-là, avec souvent leurs mains. Et c'est vrai que j'adore voir ça, j'adore voir une main qui tient l'un de mes livres. Donc écrire, être lu, c'est être caressé, au fond, oui. Il y a ce côté sensuel dans la lecture. Et la troisième...
Écrire un roman, c'est un marathon.
Oui, c'est un marathon, notamment par rapport à la presse écrite, qui relève plutôt du sprint. C'est un marathon, on est tout seul. C'est physique, c'est extrêmement physique, c'est extrêmement dur de continuer, de persévérer. On est dans le brouillard et c'est vrai qu'on cherche le second souffle. Et le second souffle, il arrive comme dans un marathon. Et moi, je mets des années pour écrire mes livres, donc... Et Marathon nous ramène aussi, comme par hasard, à l'Antiquité. La bataille de Marathon, vous voyez, en fait, le marathon, la bataille de Marathon, j'adore l'étymologie à cause de ça, c'est que, voilà, on dit un marathon, ça nous renvoie à cet épisode antique où un messager a couru tout seul, il s'est épuisé à la fin, mais il a quand même donné la nouvelle à sa ville. Et c'est vrai que c'est un marathon, c'est une bataille, il y a eu cette bataille de Marathon, et écrire un livre, c'est une bataille. Mais on est content de l'avoir gagné parce que quand c'est terminé, on l'a gagné. Et après, il appartient au lecteur. Et le lecteur doit faire le reste du chemin du marathon, au fond.
Alors le reste du chemin, c'est de se procurer en librairie « Croire au merveilleux » de Christophe Onodibio, c'est chez Gallimard. Et c'est effectivement une fringale de plage. Alors bien sûr, l'histoire est triste, mais ceci dit...
Oh, elle n'est pas triste, il revient,
y a
c'est une résurrection.
Il y a ce pèlerinage,
c'est triste,
cet amour qui...
Ouais.
Au départ, c'est un peu...
Mais c'est un homme qui revient vers la lumière, voilà, et avec cet enfant. Et cette femme, et on n'a pas parlé de cette femme, Nana, que j'adore Nana, sa bienveillance, et le fait qu'à ce si jeune âge, elle a l'air d'en savoir beaucoup plus qu'une jeune fille normale. Donc peut-être revient-elle d'ailleurs.
Effectivement. Voilà. Croire au merveilleux. Merci
beaucoup.
Christophe Onodibio.